Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Emmanuel Macron a récemment critiqué les partisans d'une ligne dure avec le pouvoir algérien en visant, je cite, « tous les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie ». Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir la classe politique, en particulier l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui aspire à succéder à Emmanuel Macron. Pour l'ancien ministre de l'Intérieur, le régime algérien viole ses obligations, notamment l'accord de 1994 en matière de reprise des clandestins. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a quant à lui annoncé que la coopération sécuritaire et migratoire a repris entre la France et l'Algérie. L'Algérie a ainsi délivré des laissez-passer consulaires pour des Algériens expulsés par la France, mais cela concerne encore un petit nombre de personnes. Cette polémique née des propos d'Emmanuel Macron intervient à un an de l'élection présidentielle. L'Algérie est déjà un sujet de la campagne électorale. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons le journaliste et écrivain Henri Vernet. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors Henri, Alger a noué des partenariats avec l'Italie et l'Allemagne. Les relations entre la France et l'Algérie ont connu des hauts et des bas durant les 9 premières années d'Emmanuel Macron à l'Élysée. On rappelle tout de même que la France reste le deuxième investisseur étranger en Algérie. Avant de vous interroger, je vous propose d'écouter le sénateur Les Républicains Roger Karoutchi lors des questions au gouvernement.
Maboul en arabe, ça veut dire fou. Mais en langue hébraïque, livre de la Genèse, chapitre 6, verset 17, « Amaboul Maïm », c'est le déluge des eaux qui distingue la lucidité de Noé. Alors fou ou lucide? Quand Christophe Glaize est toujours prisonnier de manière injuste du régime algérien? Quand Kamel Daoud est condamné à plusieurs années de prison pour un livre qui ne circule même pas en Algérie? Quand, vous l'avez dit, l'Algérie accepte au compte-gouttes ses OQTF et ne respecte pas ses accords de 1994? Quand la France entière dit que les accords de 1968 sont totalement déséquilibrés au détriment de la France et que le régime algérien ne veut rien entendre quant à leur révision? Quant au régime algérien, que je distingue du peuple algérien, quant au régime algérien, il fait en permanence tout feu, tout bois sur le rejet de la France pour conforter son pouvoir. La réalité, c'est que nous devons respecter le peuple algérien. Et si on devait, au plus haut niveau de l'État, utiliser des mots en arabe, je préférerais sincèrement, plutôt que Maboul, qu'on utilise le très beau mot de Sharaf, qui veut dire respect, loyauté, et qui a d'ailleurs son équivalent en hébreu, Kavod, qui veut dire la même chose, respect, dignité, loyauté. Et si on avait en plus le sentiment qu'on avait dans la vie publique française, le respect et la dignité plutôt que l'insulte, tout irait mieux.
On vient d'entendre Roger Karoutchi. Je vous propose à présent d'écouter le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Je suis en poste comme ministre de l'Intérieur depuis 6 mois et demi. Et quand je suis arrivé, nous n'avions plus aucune relation avec l'Algérie, plus aucune relation sécuritaire, plus aucune relation migratoire. Avant d'être ministre de l'Intérieur, j'étais préfet de police, puis j'étais directeur général de la sécurité intérieure, puis coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Croyez-moi, je connais l'importance de la relation avec l'Algérie, et notamment en termes sécuritaires. Il y va de l'intérêt de la France et il y va de la protection même de nos concitoyens. Alors oui, nous avons réenclenché une discussion avec l'Algérie. Nous avons réenclenché un dialogue sécuritaire, migratoire avec l'Algérie, avec comme seule boussole l'intérêt de nos compatriotes, évidemment l'intérêt de la sécurité de notre pays. Et les choses se sont réenclenchées. Nous discutons à nouveau sur un certain nombre de dossiers de coopération policière, judiciaire et migratoire. Lorsque je me suis rendu en Algérie, nous n'avions plus aucun laissez-passer. Zéro laissez-passer. Et maintenant, nous avons réenclenché un mouvement. On est bien au-delà de zéro, je peux vous dire, bien au-delà de zéro laissez-passer. Et il y va évidemment de la sécurité de nos concitoyens. Et c'est notre boussole dans ce dossier. C'est notre boussole. Alors, je vais vous dire autre chose, monsieur le sénateur Karoutchi. Évidemment que nous avons en tête un certain nombre de situations particulières. Je vous rappelle ce qui s'est passé avec Boualem Sansal, qui a été libéré. Évidemment que dans un coin de ma tête et dans la coin de la tête de tout le gouvernement, dans la tête de tout le gouvernement, nous avons la situation de Christophe Glaize en tête. Évidemment. Donc, évidemment que ce dialogue avec l'Algérie, c'est un dialogue exigeant.
Henri Vernet, ce mot de Maboul a suscité des commentaires depuis une semaine. L'Algérie sera assurément l'un des sujets de l'élection présidentielle, puisque sur les relations avec ce pays, il y a deux approches. Comment interprétez-vous cette séquence autour du mot Maboul ?
Mais disons qu'elle a relancé, c'est vrai, tout le contentieux qui est lié à ce dossier. Mais là, pour le coup, je trouve qu'elle a davantage relancé le contentieux intérieur. C'est-à-dire, c'est un objet de politique intérieure, de querelle. Là, en quelque sorte, Macron, alors, avec ses mots, c'est vrai qu'il a tendance, ce président, parfois, à sortir des expressions de cours de récréation, hein, qui n'ont pas forcément lieu d'être dans la bouche d'un président de la République. Alors évidemment, ça déclenche d'autant plus de réactions. Mais c'est vrai que ce propos-là, cette sortie... Donc, on rappelle le contexte. Le président est en visite dans un hôpital public en Ariège. Il se trouve que la plupart des médecins, je crois que 80% des médecins de cet établissement sont étrangers. Et parmi ces médecins étrangers, la majorité sont algériens. D'ailleurs, il faut savoir qu'en France, il y a en gros, je crois, de l'ordre de 30 000 médecins étrangers, dont un tiers sont des Algériens, c'est-à-dire qu'il y a quelques 8 000 médecins algériens qui exercent en France. Sauf que une fois qu'ils arrivent ici pour pratiquer ce métier, les obstacles sont nombreux, sont pas évidents à surmonter. Et donc c'est cela que Macron appelle à simplifier, et il prend cet exemple pour dire, bah, vous voyez, là, dans ces territoires ruraux un petit peu, un peu oubliés parfois, hein, vous voyez à quel point c'est utile d'avoir des médecins algériens. Donc il prend cet exemple pour montrer à quel point, bah, selon lui, tous ceux qui prônent une ligne dure, une ligne de rupture avec l'Algérie, bah, sont des maboules. Donc en employant ce mot, boum, il déclenche des réactions. Alors il précise bien, non mais attendez, je vise personne. Évidemment, ceux qui doivent se sentir visés l'ont fait, mais surtout il y a eu tout intérêt, c'est-à-dire que Bruno Retailleau, qui est ce tenant d'une ligne dure envers Alger, non seulement il s'est senti visé, mais il en a profité pour rebondir, pour réagir et pour en quelque sorte se faire un peu de publicité justement sur cette dureté qu'il affiche avec l'Algérie en disant, bah, c'est ce que vient de rappeler Roger Karoutchi, hein, dans sa diatribe, c'est-à-dire que les motifs aujourd'hui encore reste suffisant au tenant de cette ligne dure pour ne pas baisser la garde.
Et à contrario, Laurent Nunez dit que la ligne diplomatique permet d'enclencher une coopération migratoire, notamment.
Oui, et il a des billes pour dire ça, parce que Laurent Nunez, c'est justement lui qui a succédé Place Beauvau, donc au ministère de l'Intérieur, à Bruno Retailleau. Et dès l'arrivée de Laurent Nunez, donc qui correspondait beaucoup plus à cette ligne, disons, apaisée, en tout cas d'apaisement, qui était prônée depuis quand même un certain temps par le chef de l'État lui-même, Macron, et par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, donc face à la ligne Retailleau, donc avant même qu'il y ait ce changement gouvernemental, eh bien, Nunez est allé sur cette ligne-là. Alors, il y a eu des changements, hein. À peine Retailleau avait-il quitté la place Beauvau que, par exemple, intervenait la libération par une grâce présidentielle du président algérien Tebboune de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Alors certes, ça s'est fait par l'entremise de l'Allemagne, ce qui montre quand même que Alger, sur ce plan-là, n'a pas vraiment donné le point à la France, puisqu'il a fallu cette intervention personnelle des deux présidents, le président fédéral, hein, d'Allemagne et le président algérien. Mais quand même, les choses ont bougé. Et puis, quelques semaines plus tard, après cette libération, enfin deux mois et demi plus tard, en février dernier, février 2026, Laurent Nunez est allé à Alger à l'invitation de son homologue ministre de l'Intérieur. C'est le premier contact, en gros, qu'il y avait depuis un an après une période de gel très fort, et avec des résultats assez tangibles, puisque à la suite de cette visite, notamment les coopérations, disons, essentielles, c'est-à-dire la coopération sécuritaire, la coopération migratoire, qui était vraiment gelée entre les deux pays, ont été relancées. Et là, ce que dit, enfin, en tout cas, réenclenché. Par exemple, de manière très concrète, lors de cette visite, Laurent Nunez avait obtenu le fait que de nouveaux consuls algériens soient envoyés en France, justement parce que ça permet, entre autres, de traiter ce dossier des OQTF, qui n'est évidemment pas le seul, mais qui est important. Il y a 18 consuls algériens en France. Plusieurs postes n'étaient pas occupés. Désormais, le réseau consulaire algérien est reconstitué, donc depuis cette présence de Laurent Nunez. Et c'est important parce que ça permet vraiment à cette coopération entre les deux pays de repartir.
Henri Vernet, prenons un peu de recul. Emmanuel Macron a entamé sa dernière année à la présidence de la République. Après son élection, il a multiplié les gestes d'amitié envers l'Algérie au tout début de son mandat. Rappelons qu'il est le premier président de la République à être né après l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu des progrès sur la question mémorielle, qui est un sujet important pour les autorités algériennes. Mais les relations se sont tendues après la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Comment a démarré le dialogue avec Alger lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Vous l'avez dit, il a plutôt bien démarré, et justement par ce que vous avez souligné, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, contrairement à ses prédécesseurs, il n'est pas tenu par ce passé. J'allais dire le mot passif, parce qu'au vu d'Alger, c'est souvent un passif, et notamment des historiques à Alger, c'est-à-dire tous les dirigeants issus du FLN, de la guerre d'indépendance. Et il faut d'ailleurs noter que Abdelmadjid Tebboune non plus a pas tellement cette histoire-là. Alors certes, il en a l'âge, c'est un octogénaire, donc il est beaucoup plus âgé qu'Emmanuel Macron, donc contrairement à son homologue français, lui, il a connu cette période, mais disons qu'il n'a pas cette implication qu'avait, par exemple, un Boumediene ou un Bouteflika. Donc c'est pour ça qu'entre les deux hommes, les choses commençaient plus facilement. On se souvient, par exemple, à Jacques Chirac, il avait été officier de Spahi, lieutenant de Spahi, en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, enfin ce qu'on appelait en France les événements et ce qu'on appelait en Algérie la guerre d'indépendance. Et donc Emmanuel Macron, il est animé d'un désir sincère d'apaiser, de tourner cette page-là et de trouver une espèce, de réconciliation entre les deux pays, entre les deux peuples. Il ne faut jamais oublier qu'en France, entre les Algériens étrangers, immigrés, et les franco-algériens, c'est une population de 2 à 3 millions. Donc c'est vraiment important, et également le nombre de franco-algériens qui vivent en Algérie. C'est une question existentielle, pourrait-on dire, entre nos deux pays. Et Emmanuel Macron, il arrive avec cette idée-là de tourner la page, et déjà comme candidat, il fait le voyage d'Alger en février 2017, à l'époque il est donc le candidat En Marche, et il aura cette fameuse formule où il prononcera dans une interview à un média algérien, il dit que la colonisation, c'était un crime contre l'humanité. Formule qui lui vaudra d'ailleurs bien des déboires en France, il perdra même quelques points dans les sondages, dans sa campagne à ce moment-là, parce qu'en France, le sujet reste extrêmement sensible. Et c'est la première fois que, en l'occurrence, un futur dirigeant, puisqu'il n'est pas encore président, fait une telle déclaration. Mais en tout cas, dès qu'il est élu et qu'il arrive à l'Élysée, il enclenche la politique de réconciliation mémorielle.
En 2020, Benjamin Stora a remis un rapport destiné à améliorer les relations entre les deux pays. Une commission composée d'historiens algériens et français a vu le jour. Mais en juillet 2024, à l'occasion de la fête du trône, la France a rejoint la liste des pays reconnaissant la marocanité du Sahara. Les relations avec le Maroc ont connu une embellie, alors que le froid s'est d'abord installé entre Paris et Alger, avant d'aboutir à une grave crise politique, sécuritaire et diplomatique inédite depuis 1962. Qu'est-ce qui a provoqué ce froid puis cette crise dans les relations franco-algériennes, c'est cette question du Sahara ?
Ah oui, non, très clairement, très clairement. Bah, d'abord, c'est le courrier, c'est la lettre qu'a envoyée au roi du Maroc Emmanuel Macron. C'était à l'occasion de la fête du trône de juillet, fin juillet 2024, et avec donc cette reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est une volte-face totale et spectaculaire de la part de Paris, parce que jusqu'à présent, la politique était d'avoir une position équilibré sur ce sujet, c'est-à-dire de considérer que ce territoire disputé, c'est comme ça que l'ONU appelle des territoires qui doivent être soumis à autodétermination. Il y a un référendum qui est de plus en plus hypothétique et qui est prévu depuis des décennies sans jamais vraiment intervenir. On peut dire que c'est un conflit gelé en quelque sorte, mais en tout cas une question qui n'est pas réglée et sur laquelle la France s'abritait derrière cette position de l'ONU alors que d'autres pays, à commencer par les États-Unis, aussi bien les États-Unis de Trump dans son premier mandat, Donald Trump premier mandat, mais également Joe Biden par la suite avait en effet donné raison en quelque sorte au Maroc, également des pays européens comme l'Allemagne et très important l'Espagne, l'Espagne ancien colonisateur du Sahara occidental, et donc la France les a rejoints, rompant avec cette tradition disons d'équilibre ou de neutralité comme on voudra, en tout cas prenant d'abord le droit international. Alors si Macron le fait, il y a plusieurs raisons. Alors d'abord, c'est vrai qu'en revanche, ce qui était extrêmement détérioré à l'époque, c'était la relation entre Macron et le roi du Maroc. Ça, c'est très clair. Et du coup, entre Paris et Rabat, or, on le sait, la coopération, l'entente entre ces deux pays, là aussi, alors c'est pas du tout une histoire aussi riche que celle entre la France et l'Algérie, mais quand même, c'est une relation qui a toujours été étroite, notamment entre les classes politiques. Il y a un vrai continuum politique entre Paris et Rabat, depuis toujours, depuis la fin du protectorat, donc dans les années 1950. Mais et c'était vraiment, il y avait un énorme froid entre les deux capitales, et donc la France considérait cela intenable, d'où cette volonté de se réconcilier avec le Maroc. Et par ailleurs, alors que c'est vrai, on a souligné à quel point Macron a commencé ses premières années de présidence par cette politique de réconciliation mémorielle, avec des gestes quand même important, notamment la reconnaissance par la France dans l'assassinat ou la disparition de figures de l'indépendance algérienne, avec des gestes faits par exemple sur la mémoire de l'émir Abdelkader, des choses assez importantes, avec dans le rapport Stora, il était riche de propositions très concrètes pour faire avancer tout cela vers une mémoire commune, partager une histoire commune et non pas chacun de son côté des mémoires communautaristes en quelque sorte. Il faut bien reconnaître aussi que ces gestes, en tout cas, ces avancées françaises n'avaient pas été payées de retour par l'Algérie, qui campait un peu sur cette idée de ce qu'on veut, ce sont des excuses de la France. Encore une fois, je répète, c'est un sujet hyper sensible. Macron, pour l'instant, n'était pas allé jusque-là. Bon, il y avait bien une visite qui avait marqué quand même la visite de Macron.
Pourquoi c'est un sujet sensible en France, notamment parce que la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance a concerné de très nombreux Français.
Et bien sûr, elle a concerné des millions de Français. D'abord les jeunes appelés et qui ont passé un an, deux ans parfois en Algérie parce qu'à l'époque, beaucoup ont combattu longtemps. Bien sûr, c'était ce qu'on appelait les pieds noirs, c'est-à-dire les colons français d'Algérie qui ont été rapatriés, mais ça veut dire qu'ils ont dû revenir de manière assez brutale en 1962, enfin entre 60 et 62, donc en laissant à la fois leur vie et leur souvenir, parce que c'était une longue histoire.
Et qui n'ont pas toujours été bien accueillis en métropole.
Non seulement ça. Oui, ils n'ont pas été bien accueillis. Vous savez, quand vous avez un million de personnes comme ça qui arrivent et sans forcément de travail, de racines en France, parce que, attention, on parle toujours de la guerre d'Algérie, mais il faut voir la colonisation dans son ensemble. Ça a duré 132 ans, et ça, Benjamin Stora, avec raison, insiste beaucoup là-dessus, sur la durée en longueur de cette présence, qui a duré donc plus d'un siècle, c'est la monarchie de Juillet, 1830, qui lance la conquête de l'Algérie. Donc c'est une histoire très longue, des histoires histoires familiales, de générationnelles. Mais bien sûr, se sont créées, se sont tissées. Et puis, c'était pas une colonie, entre guillemets, comme une autre. Il s'agissait de départements français. Donc, il y avait vraiment là aussi une imbrication. C'est pour ça qu'on parle de cette imbrication entre les peuples. Donc, évidemment que c'est la question aujourd'hui encore, c'est-à-dire aujourd'hui plus de 60 ans après l'indépendance algérienne, la question reste ultra sensible des deux côtés. Enfin, c'est un ferment, disons, assez classique hein, de prendre la France comme souvent responsable de tous les maux côté algérien. Mais, et c'est un ferment aussi de revendication. Alors, beaucoup moins maintenant en France, parce que les générations, tout cela est passé, les générations s'éteignent. Mais enfin, ça concerne donc à la fois dans les deux communautés. Il y a aussi beaucoup de descendants de Harkis. Il y a évidemment tous les 3 millions dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les immigrés qui gardent, qui sont encore algériens pleinement, et ceux qui donc d'origine vivent ici en France. Donc tout cela, c'est quand même avec des intérêts économiques des deux côtés, avec enfin ce sont vraiment deux sociétés qui sont quand même très proches. Vous l'avez rappelé, la présence économique française est importante en Algérie.
Et le patron du MEDEF s'est rendu récemment en Algérie, ce qui est quand même un signe aussi.
C'est un signe et c'est intéressant parce que ça veut dire que puisque décidément la réconciliation politique, en tout cas retrouve une relation fluide et dépassionnée au niveau politique. Alors ça avance, on vient de parler de Laurent Nunez, on vient parler des différents pas qui ont été faits, mais ça reste quand même encore heurté et un peu délicat. Bah oui, il faut trouver d'autres voies. Et c'est vrai que du coup, cette démarche du patron du MEDEF était intéressante, surtout que parmi les représailles hein, qu'il y a eu suite à cette reconnaissance de la marocanité du Sahara par Paris, parmi les représailles, il y a eu justement un boycott des entreprises françaises, et ça, ça leur a rendu, et ça continue de leur rendre la vie très difficile, par exemple en termes de domiciliation bancaire, l'impossibilité de faire venir sur les entreprises françaises qui sont en Algérie, impossibilité de faire venir des intrants, enfin des produits intermédiaires depuis le territoire français, enfin bref, il y a vraiment tout un tas de difficultés, et vous-même, vous avez cité à quel point aujourd'hui, l'Allemagne et surtout l'Italie de Giorgia Meloni, en quelque part, en train de prendre la place qui était celle de la France. Ça très bien, c'est très bien d'avoir ce genre de diversification. Mais enfin, il ne faut pas non plus que le côté franco-algérien y perde tout son intérêt.
Henri Vernet, Bruno Retailleau a fait de l'Algérie un thème de sa campagne pour l'élection présidentielle et pour le candidat LR à l'Élysée. La France ne s'est toujours pas donné les moyens d'expulser les ressortissants algériens sous OQTF. Je vous propose de l'écouter.
Les OQTF qui ont été repris par l'Algérie, c'est à 80-90 depuis le début de l'année, à peu près, 90 cas. Mais surtout, c'est en violation de l'accord que nous avons entre l'Algérie et puis la France de 94. Un accord qu'Emmanuel Macron citait d'ailleurs dans la lettre que je vous ai indiquée qu'il avait envoyée à François Bayrou. Et selon cet accord, quand par exemple un Algérien qui a fait des troubles publics sur le sol français, on lui documente par exemple un document d'identité ou un passeport, l'Algérie doit le reprendre. Et en violation de cet accord, les Algériens reprennent au compte-gouttes, mais par la voie des laissez-passer, qui est la voie exceptionnelle. Donc ils violent leur accord, alors que nous, on a l'accord de 68 qu'on respecte à la lettre. Eh bien, quand je serai élu président de la République, un des premiers des actes que je ferai, c'est que je dénoncerai cet accord de 68.
Alors, on a entendu parler de deux accords, celui de 1994 et surtout celui de 1968, qui est au cœur du contentieux franco-algérien. Édouard Philippe a d'ailleurs été l'un des premiers à vouloir le remettre en question. En quoi cet accord donne-t-il des privilèges à l'Algérie, selon ses détracteurs ?
Alors, vous avez raison quand même de rappeler qu'Édouard Philippe a été l'un des premiers à demander sa renégociation, à le remettre en cause, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a eu un vote initié par le Rassemblement national il y a quelques mois, c'était à l'automne 2025, à l'Assemblée nationale, un vote justement dénonçant cet accord. Alors, pas du tout à l'unanimité, loin de là, mais un vote majoritaire, donc à l'Assemblée, alors que ça venait du RN. Alors, pourquoi ? Cet accord de 1968, disons que par rapport à l'ensemble des étrangers voulant immigrer en France, c'est vrai qu'il donne, quelques facilités supplémentaires, quelques avantages aux Algériens, à l'immigration algérienne, en termes de circulation, par exemple en termes de regroupement familial, en termes d'obtention d'un titre de séjour. Elle est plus facile pour un Algérien au bout d'un certain nombre d'années de présence, ce qui n'est plus le cas désormais pour toutes les autres nationalités, hors Union européenne, hein, bien évidemment. C'est sur des terrains comme ça que, en vertu de cet accord de 68, la circulation, disons, et l'établissement est plus facile. Il serait plus juste de dire moins difficile, moins compliqué quand on vient d'Algérie. Mais justement, cet accord, il a déjà été renégocié. Il a déjà connu des avenants à plusieurs reprises, de mémoire à 3 ou 4 reprises. Alors la dernière fois, c'était en 2001. Mais justement, là, ce qu'évoque Bruno Retailleau, c'est l'avenant de 1994, hein, donc on dit accord de 94, mais il est lié à ça, il est lié à 68. Et disons que cet accord, justement, simplifié côté français, le renvoi des personnes placées sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire pas besoin de laisser passer consulaire. Et c'est vrai que là, dans ces temps de brouille, eh bien, l'Algérie freine tout cela en exigeant les laisser passer consulaires. Et c'est ce qui avait valu à Bruno Retailleau de voir plusieurs, notamment des influenceurs algériens qui avaient été expulsés du territoire français, parce que tout simplement ils avaient fait des appels à la haine, des appels à la violence sur le sol français, ce qui avait justifié cette mesure d'éloignement. Une fois dans l'avion, ils avaient été tout simplement refoulés, pas acceptés. Alger ne les a pas repris, et donc sur le tarmac de l'aéroport, ils avaient dû reprendre l'avion, retourner vers la France. Et Bruno Retailleau, alors qu'il était donc ministre de l'Intérieur, mais il avait déjà fait de ce thème un point clé, de son ADN politique, hein, de sa marque de fabrique politique, Retailleau, donc à l'époque, avait dénoncé une humiliation de la France. Et il reste sur cette ligne-là. À l'époque, c'était en tant que ministre de l'Intérieur et parallèlement candidat à la présidence des Républicains, qui l'avait d'ailleurs obtenu par la suite. Aujourd'hui, c'est en tant que candidat à la présidentielle, il veut marquer cette ligne dure, mais il n'est pas le seul. Hein. Vous avez cité Édouard Philippe, on peut évidemment parier, d'ailleurs on a bien vu les déclarations qui ont suivi le mot Maboul là, de Jordan Bardella, notamment côté RN, mais c'est également le cas de Marine Le Pen. Enfin, les partisans de cette ligne très dure, voire de rupture avec l'Algérie, sont nombreux.
Pour terminer, Henri, je vous propose d'écouter Ségolène Royal, qui a pris la présidence de l'association France-Algérie.
Vous avez le droit de comprendre et de vous faire votre propre opinion en vous détachant de ceux qui sont nostalgiques de l'Algérie française, qui n'ont jamais accepté la décolonisation et qui pensent grappiller quelques voix en choyant ces nostalgiques de l'Algérie française. Tous les voisins aujourd'hui de l'Algérie s'entendent avec ce pays, que le pape d'ailleurs vient de visiter. C'est la preuve même que ce pays n'est pas la caricature que certains en font aujourd'hui en France.
On vient d'entendre Ségolène Royal, ancienne candidate à l'élection présidentielle en 2007. Et alors elle s'insurge contre l'agressivité de certains responsables politiques.
C'est vrai que l'instrumentalisation de l'Algérie, elle est déjà là dans le débat public français, vraiment ces dernières années. Elle le sera encore davantage dans cette présidentielle. Ce qu'on peut craindre, c'est quand même vraiment ce risque de surenchère. Hein. Et par exemple, ce qui est assez notable, c'est que pour toutes les raisons qu'on a vues au cours de cet entretien, les candidats importants, entre guillemets, à une présidentielle française, ils font le voyage en Algérie. J'ai évoqué, par exemple, celui du candidat Macron au début 2017, mais c'est le cas des gros candidats.
François Hollande s'était rendu en Algérie.
Bien sûr, parce que c'est important. Enfin, avant leur élection, hein, nous sommes bien d'accord. Évidemment, après aussi. Et là, j'entendais un comment dire, un bon connaisseur du dossier, craindre que, bah, par exemple, à l'occasion de cette présidentielle-là, celle de 2027, bah, ce ne soit pas le cas, tellement le sujet est clivant, tellement il est sensible. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme. Hein, Ségolène Royal, par moment, c'est une politique qui est quand même extrêmement madrée. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc, disons qu'il faut traiter ce sujet de manière vraiment dépassionnée des deux côtés. Et ce n'est pas évident. Là, c'est quand même, malgré tout, cette politique des petits pas de la reprise de cette coopération donc sécuritaire, hein. Également la lutte contre les narcotrafics, il y a une coopération entre les deux, là aussi, qui est très importante, la coopération migratoire, bien évidemment, économique aussi, on l'a dit, et culturelle, il faudrait quand même aussi reprendre là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une hypothèque qui reste, c'est la détention de notre compatriote journaliste Christophe Glaise, ça c'est important, il faut vraiment que sa libération puisse intervenir, évidemment il serait aussi intéressant de voir quelle est la position des Algériens vis-à-vis de cela, parce qu'ils sont évidemment eux aussi concernés par cette présidentielle française. Quelle politique vont-ils jouer d'ici là ? Enfin, tout cela est vraiment à suivre de très près.
Merci, c'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet, un podcast disponible sur Spotify et sur radioorient.com.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.